Stage. Rencontre avec les acteurs du monde de la musique, afin d'en décrypter les rouages et de mettre en lumière les nouvelles initiatives. Bonjour à tous, c'est Julie au micro et aujourd'hui direction Steinway & Sons au 230 boulevard Saint-Germain à Paris. Un showroom élégant à l'image de cette marque mythique plus que centenaire. 780 mètres carrés, une salle de concert privée et bien sûr des pianos. Steinway & Sons, c'est une présence à l'international, deux ateliers et la fabrication de 3000 pianos par an. Enzo Angauer, manager marketing France et responsable de la relation avec les artistes, me raconte l'histoire fascinante de la légende Steinway & Sons. Mais avant, petit point sur les deux superbes pianos qui nous entourent. Enzo Angauer.
Le modèle D, qui est donc le piano de concert de Steinway & Sons, le D274, qui est le piano qu'on retrouve sur 9 scènes sur 10 de par le monde. On va dire classique, standard, qui est le fleuron de la marque. Et puis un modèle B, qui paradoxalement est le modèle le plus fabriqué, puisque c'est le demi-queue, donc le modèle B211, et qui est dans une édition ici très particulière, puisque c'est le fruit d'une collaboration avec la maison de cristal Lalique. Donc on a un design tout particulier. Ça nous arrive de faire quelques pianos comme ça en édition limitée. Le dernier en date, c'était un piano qui a été dessiné par Lenny Kravitz, qui a une finition en bois absolument fabuleuse de l'ébène de Macassar et qui présente des éléments de design tout à fait innovants, avec notamment une béquille en cuivre, des éléments tribales de dessinés sur la ceinture et voilà encore beaucoup d'autres choses qui sont à voir. Et aujourd'hui, il se trouve que c'est les 5 ans de l'ouverture de ce showroom.
Alors, merci beaucoup Enzo, c'était une magnifique introduction. Donc, je précise qu'on est ici dans le showroom de Steinway France au 230 boulevard Saint-Germain. On est ravis d'être ici, notamment parce que c'est la date anniversaire, comme vous l'avez dit, de ce showroom, de ce lieu qui est un lieu épicentre en Europe.
Tout à fait, un épicentre parce que c'est un lieu qui vient marquer un changement aussi dans la dynamique de la marque, puisque le modèle européen est beaucoup basé sur de la distribution. Et l'idée, c'était de s'installer en France en propre. Donc on dépend directement de notre siège européen qui est basé à Hambourg. Et donc en 2017, c'était vraiment un événement majeur pour la maison, puisque la dernière implantation dans un pays européen datait de 1880. Donc ça faisait tout simplement 137 ans que Steinway ne s'était pas implanté dans un nouveau pays d'Europe. Donc un projet évidemment colossal, dont on est aujourd'hui très très fiers. C'est, comme vous l'avez précisé, c'est vraiment aujourd'hui, donc le 6 mai 2022, qu'on célèbre les 5 ans de l'ouverture de ce lieu qui ravit nos clients, mais aussi les artistes, puisque dans cette salle, nous réalisons aussi des tournages, des événements. D'ailleurs, le pianiste Lang Lang sera ici ce soir pour un tournage très particulier. On fait aussi de la télévision et même des podcasts.
Alors, on reparlera un tout petit peu plus tard dans l'émission de cette activité française de Steinway aussi. Mais comme vous nous avez embarqué vers le passé en nous disant que ça faisait 137 ans, donc effectivement, Steinway n'était pas venu en Europe, ça nous ramène au 19e siècle tout ça. Et ça nous ramène au fait de dire que Steinway est une marque historique, légendaire, absolument incroyable. Est-ce que Enzo, vous pouvez nous faire un petit historique et nous raconter les débuts, comment Steinway est né au 19e siècle?
Complètement et avec joie, parce que c'est une marque qui a une histoire extrêmement riche, comme vous l'avez précisé. La société est fondée précisément à New York en 1853, donc c'est une marque américaine, mais issue d'une famille allemande. Et notre fondateur est Heinrich Engelhard Steinweg, qui naît en 1797, année de naissance également de Franz Schubert, un certain Franz Schubert, pour situer quand même historiquement où cela se déroule. Et donc c'est un facteur d'orgue, puisque son père est facteur d'orgue, et à cette époque-là, il y avait une forte transmission dans le travail. Mais son rêve et sa passion, c'est en fait de fabriquer des pianos. Alors c'est très compliqué, parce qu'à cette époque-là, en Allemagne, pour être facteur de piano, il faut avoir un diplôme de facteur de piano, ce qu'il n'avait pas. Et c'est donc en 1836 qu'il réalise son premier piano, qu'on dénomme aujourd'hui le Kitchen Piano, puisqu'il l'a fabriqué en cachette dans sa cuisine, en Allemagne, et qui est aujourd'hui un instrument historique dont on fait jouer d'ailleurs une réplique à l'identique pour écouter justement la sonorité de ce premier piano qui fait naître tout de même la marque Steinway.
Et où est cette réplique ?
Alors cette réplique est dans nos ateliers à Hambourg. On l'utilise pour des événements, justement pour montrer l'évolution du piano. On place trois instruments, donc cette réplique qu'on appelle le numéro 1 de 1836, un piano qu'on appelle le Wagner qui date de 1877, et puis un modèle récent des années 2000. Et donc on voit vraiment l'évolution du son, l'évolution des techniques de fabrication et leur implication sur le piano. Parce qu'en effet, Steinway est aussi légendaire parce qu'elle a amené le piano forte qu'on connaissait à cette époque-là vers le piano moderne, avec plus de 150 brevets déposés. Donc il y a une très très forte valeur de l'innovation chez Steinway. Parmi ces brevets, on peut parler notamment des échelles duplex, qui sont des parties de cordes vibrantes supplémentaires qui sont placées avant et après la partie principale de la corde, donc qui ne sont pas directement frappées par les marteaux, mais qui se mettent en vibration par sympathie, juste parce que les fréquences concordent avec la partie de corde principale et qui viennent ajouter un halo harmonique absolument fabuleux. On parle très souvent, et à juste titre, des aigus perlés de Steinway. C'est un des grands secrets qui a permis vraiment ce son si caractéristique et si perlé dans les aigus. Ça permet aussi d'équilibrer le piano, parce que c'est très compliqué pour le facteur de piano de voir se battre, entre guillemets, entre la corde la plus grave, qui mesure souvent plus de 2 mètres, dans le modèle de concert, et la plus aiguë qui fait seulement quelques centimètres. Donc le fait d'ajouter 3 cordes par note dans la partie aiguë aide à ça, mais les échelles duplex, ça a vraiment été un brevet déterminant qui a permis d'avoir ce son si particulier. Il y a aussi la cloche, qui est un élément qui est placé sous le piano. Donc pour nos auditeurs, si vous êtes intrigués, n'hésitez pas à aller voir aussi sous le piano. D'ailleurs, c'est très beau, puisque tout est réalisé là aussi en bois massif. Et donc, il y a cette pièce qui s'appelle la cloche, qui est une pièce en fonte, qui, contrairement aux légendes urbaines, ne vibre pas, ne sonne pas. Elle a simplement une forme de cloche, parce que c'est ce qui permet de résister le mieux à la tension. Et donc, sa fonction, c'est justement de tenir la ceinture, qui est la partie qui entoure le piano, de tenir la ceinture au cadre en fonte, afin de garder toujours une tension très très forte sur cette partie de bois-là, qui est la partie justement du côté des aigus. Et c'est encore un autre secret qui a permis d'avoir des aigus aussi perlés et aussi puissants, qui projettent pour les salles.
Donc tout ça contribue à faire la renommée de Steinway sur plusieurs décennies. Mais si on revient rapidement à Heinrich, qui est donc notre inventeur de ce superbe piano. Lui, est-ce qu'il invente justement quelque chose de particulier, et comment est-ce que la marque va connaître un rayonnement déjà à son époque, à lui ?
Alors, tout de suite, déjà, son rêve et son motto, on va dire, c'est de fabriquer le meilleur piano possible. Donc ça, c'est une devise qui, encore aujourd'hui, anime chaque employé dans nos ateliers. Donc, sans limite de temps, sans limite de coût. Juste le meilleur. Et donc, pour fabriquer le meilleur piano possible, il faut se doter des meilleurs matériaux possibles. Donc, très, très vite, il va se sourcer dans les régions où les meilleurs bois poussent. Et en fait, les meilleurs bois sont jugés par leur fonction. C'est-à-dire qu'il y a des bois qui sont juste là pour résister au poids de l'instrument. Par exemple, les pieds qui sont en hêtre. Et il y a d'autres bois plus légers, beaucoup plus fragiles, qui ont pour vocation à transmettre les vibrations sonores. Je pense notamment à l'épicéa Sitka, qu'on utilise pour fabriquer nos tables d'harmonie. On dit souvent que la table d'harmonie, c'est cette pièce qui est vraiment l'âme du piano, puisque c'est elle qui amplifie la vibration de la corde. Et qui fait, pour le modèle D, par exemple, à titre indicatif, 9 mm en son centre. Donc c'est une pièce qui est vraiment très fragile, très fine, et qui permet vraiment de projeter le son. Donc tout de suite, il y a une recherche au niveau des matériaux. Et il y a une recherche qui est conjointe, parce que donc on parle de Heinrich, mais ses fils sont très très présents, et notamment Theodor et William Steinway, qui sont deux de ses fils, et qui vont très rapidement accompagner en fait leur père dans ce projet fou de fabriquer le meilleur piano possible. Et donc dès le début, c'est tout de suite Steinway & Sons, parce que c'est un projet vraiment familial. C'est ça aussi qui est très très beau. Alors, comme je vous le disais, c'était très compliqué à cette époque-là de fabriquer des pianos sans être facteur de piano. Et donc, il y a un des fils qui part dans les années 1850 faire un petit peu un tour du monde. Alors, à cette époque-là, c'est
compagnonnage.
Un compagnonnage, exactement, pour trouver vraiment un Eldorado où installer une entreprise pour fabriquer des pianos qui soient les meilleurs pianos possibles. Et donc, dans son voyage, qui dure 2 années, il arrive finalement à New York. Et là, il y a une lettre qu'il écrit à son père et qui est dithyrambique sur cette ville. Il lui dit, c'est à tout prix ici qu'il faut venir. À cette époque-là, il y a des dizaines de facteurs de piano. C'est vraiment l'âge fleurissant vraiment du piano pour se divertir dans les appartements new-yorkais. Tout le monde sait jouer un petit air, tout le monde chante. Et c'est vraiment, avant le phonographe et la télévision, c'est vraiment l'objet de divertissement, on va dire, de la société new-yorkaise à cette époque. Beaucoup de familles se mettent à fabriquer des pianos.
Donc de potentiels concurrents aussi pour Steinway &
Sons. Tout à fait, tout à fait à cette époque-là. Alors, quand il y a une forte, forte demande, comme c'était le cas à cette époque-là, je pense que les facteurs s'en sortaient tous plutôt bien. Ce qui a fait la différence et qui fait qu'aujourd'hui, il reste que quelques maisons et dans le monde du concert que Steinway est vraiment proéminent, c'est vraiment cette vocation à être toujours dans l'excellence, à fabriquer le meilleur piano possible avec beaucoup d'innovation, beaucoup de brevets, et ça fait vraiment partie de l'ADN de la marque jusqu'encore aujourd'hui. Même en 2015, oui, on continue à faire évoluer le piano, notamment aussi sur d'autres parties plus techniques, pas forcément technologiques, avec un réglage d'étouffoir. Mais donc, en tout cas, voilà, c'est vraiment cette forte propension à vouloir innover, à faire de la recherche, qui est d'ailleurs à cette époque-là purement empirique. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Aujourd'hui, quand on fait des comparaisons, on a beaucoup d'appareillages, on peut enregistrer des sons, comparer des courbes, on se rend compte que ce qui avait été fait de manière empirique à cette époque-là était la bonne décision. Et ça en dit quand même très long sur l'oreille, déjà, que les employés avaient à cette époque-là et le savoir-faire. Et donc, en 1853, vraiment, Steinway & Sons est fondé. Donc, le nom est américanisé, puisque donc on va de Steinweg à Steinway, ce qui, dans la signification, reste correct, puisque Weg, en allemand, c'est le chemin aussi. Et donc, c'est tout simplement parce que les Américains avaient un petit peu de mal à prononcer Steinweg. Donc, ça s'est transformé en Steinway. Voilà.
Donc, le rêve américain commence.
Complètement.
Et là, ça propulse quand même l'entreprise.
Tout à fait. Donc, il y a des premiers ateliers donc, qui sont fondés en 1853, qui déménagent vers des ateliers un tout petit peu plus grands dans le Queens, dans les années 1860. Et c'est encore là-bas qu'aujourd'hui, on fabrique les Steinway. Alors, il y a deux sites de fabrication aujourd'hui. Donc, il y a toujours notre usine historique de New York. Et puis, en 1880, un des fils retourne à Hambourg pour fonder nos ateliers de Hambourg, qui aujourd'hui encore fabriquent les pianos qui nous entourent, puisqu'ils fournissent l'Europe et l'Asie. Et les ateliers de New York fournissent, eux, plutôt les deux Amériques.
Donc déjà, ils avaient cette ambition d'être présents à l'international. Hein. C'était quand même des entrepreneurs assez visionnaires aussi.
Tout à fait. L'idée, c'était aussi beaucoup d'être présents dans le monde du concert. En fait, de 1875 à 1880, on envoyait des pianos qui étaient fabriqués dans les ateliers de New York en Europe. Alors à cette époque-là, c'était assez compliqué puisque c'était par bateau, tout n'était pas forcément complètement hermétique. Donc il y a eu 5 années en réalité où on a eu un magasin Steinway à Londres sans avoir d'atelier en Europe. Donc très rapidement, 5 ans plus tard, l'un des fils retourne fonder les ateliers. Et donc voilà, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir profiter de tout ce patrimoine parce que le plus grand secret de Steinway, pour moi, ça reste les employés. Et à l'heure actuelle, quand même, c'est quelque chose qui je trouve très, très impressionnant. À l'heure actuelle, dans les ateliers de Hambourg, plus de la moitié ont plus de 25 ans de maison. Donc, c'est vraiment de l'hyper-spécialisation. On travaille par département, avec à chaque fois un maître du département, et qui est, on l'estime, pleinement apte à travailler au bout de 10 années à réaliser la même tâche.
Donc c'est vraiment un savoir-faire qui se transmet, en fait.
Tout à fait. Et qui se transmet, d'ailleurs, parfois, de manière familiale. Pareil, c'est très, très beau à voir. On a des départements, on a 3 générations de la même famille, parce que nos employés ont la possibilité de faire visiter les ateliers à leurs enfants, petits-enfants. Et donc, ça crée d'autres vocations. Et c'est pour moi vraiment ça, le grand, grand secret de Steinway.
Et quels sont les premiers grands artistes qui vont jouer sur des Steinway et qui vont contribuer aussi à faire rayonner la marque?
Alors, très, très tôt, justement, il y a un des fils qui a cette idée de lier la maison et de ne pas rester qu'un facteur de piano qui fabrique et qui vend ses instruments, mais tout de suite de lier la maison aux artistes. Et donc, un des tout premiers artistes de Steinway, ça va être Anton Rubinstein. On est à la fin du 19e siècle. Et donc, le concept d'artiste Steinway est inventé à ce moment-là. Ça a plusieurs vocations et c'est intelligent de faire ça parce qu'en fait, en étant en contact direct avec les artistes, on a leur retour sur les instruments. Donc, pour faire développer l'instrument, c'est extrêmement pertinent. Et aussi parce que, ben, lorsque les clients particuliers décident d'acheter un piano plutôt qu'un autre, c'est aussi toujours attirant et intéressant pour eux de se dire, ben, c'est vrai qu'à chaque fois que je vais au concert, mes artistes favoris jouent Steinway, il doit y avoir une raison, comment ça se passe. Et donc, on est aussi attiré par ça. Ce qui est très, très intéressant à souligner, c'est que ces artistes-là ne sont pas sponsorisés. Ça, c'est un concept vraiment, donc je parle de concept parce que c'est quelque chose qui est unique aujourd'hui sur le marché. On ne paye pas les artistes pour dire qu'ils sont artistes Steinway. On ne leur prête pas d'instruments. Voilà, il n'y a aucun avantage financier. C'est très, très important pour nous.
C'est toujours le cas. Hein, voilà.
C'est toujours le cas aujourd'hui. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et c'est très important pour nous parce qu'on veut que les artistes qui souhaitent jouer nos pianos aient envie de les jouer, non pas par intérêt financier, mais par intérêt artistique. Et parce que, profondément, c'est vraiment l'instrument qui trouve le meilleur pour leur concert. Alors aujourd'hui, il y a plus de 2000 artistes Steinway, donc le concept a évolué. Et une partie du coup de ma fonction, c'est aussi d'être en contact direct avec les artistes et donc d'avoir tous ces retours justement sur les instruments, de continuer à faire évoluer, aussi d'être au service des artistes. Donc pour des tournages, c'est ce qu'on va faire ce soir avec Lang Lang dans ce lieu, pour des locations de concerts, puisque les artistes pianistes ont cette spécificité qu'ils ne peuvent pas voyager ou très rarement avec leur instrument. Et ces artistes-là ont quand même un handicap, j'ai envie de dire, par rapport à d'autres, puisqu'ils arrivent à chaque fois sur un instrument qu'ils ne connaissent pas. Et justement, leur retour, c'est souvent de dire « mais en fin de compte, si, on le connaît ». Parce que c'est une sécurité énorme pour nous de jouer Steinway, parce qu'il y a toujours quand même cette fibre, même si chaque piano, on y reviendra, est unique, a une sonorité différente et un toucher différent, il y a quand même cette trame Steinway qui est reconnaissable et qui rassure beaucoup les artistes parce qu'au-delà d'être des pianos d'exception dans leur sonorité et dans leur toucher, ce sont aussi des instruments qui résistent très bien dans le temps et qui résistent très bien aux différents déménagements puisqu'un piano de concert, c'est quand même déménager fréquemment. Donc on passe de conditions climatiques parfois chaudes à froides dans la salle, humides à sèches ou l'inverse. Et donc une des grandes spécificités de Steinway aussi, c'est sa longévité et sa durabilité. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup beaucoup dire. Il y avait une interview, alors c'était peut-être pas un podcast à l'époque, mais une interview en tout cas du dernier membre de la famille Steinway à avoir gouverné l'entreprise. C'était la 6e génération. Et donc ce monsieur s'appelle Henry Z. Steinway. Et on lui a demandé dans les années 1960 la durée de vie d'un piano Steinway. Et il a répondu que malheureusement l'entreprise était encore trop jeune pour le savoir.
Donc, c'est une très jolie réponse.
Je trouve, et c'est très inspirant, et c'est surtout très vrai, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on fait jouer encore des instruments des années 1870, qui pour le coup, eux, sont des originaux, et qu'on fait jouer, par exemple, le dernier événement en date, c'était avec le pianiste Bertrand Chamaillou, qui est artiste Steinway également, et donc qui a d'ailleurs une fine connaissance des instruments anciens, et donc qui a joué sur cet instrument. Donc c'est un instrument qui est encore tout à fait jouable, presque 150 ans après.
Est-ce que vous avez justement une idée de combien il existe de pianos Steinway dans le monde en tout? Est-ce qu'il y en a qui ont été perdus? Est-ce que aussi vous avez une volonté presque de peut-être conserver, muséifier vos instruments?
Alors certains sont déjà en musée, comme le numéro 1, l'original. Et pour répondre à la question du nombre de pianos, alors on peut savoir très facilement combien de pianos ont été fabriqués, combien sont encore en activité aujourd'hui, c'est plus difficile à dire. En tout cas, aujourd'hui dans nos ateliers, on fabrique les numéros 620 000. Et donc chaque piano a un numéro de série qui correspond à son numéro chronologique en fin de compte de fabrication.
Et est-ce qu'il y a un piano Steinway qui a une histoire particulièrement incroyable, je ne sais pas, que vous pourriez nous raconter?
Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le premier qui me vient à l'esprit, parce que je suis très, très admiratif de cet artiste, c'est le piano de Vladimir Horowitz, qui, contrairement à ce que je vous disais à l'instant, voyageait avec son instrument, détestait prendre l'avion. Donc, il y avait des temps de trajet assez long, et donc ça permettait aussi cette logistique d'apporter son propre instrument. Alors, il y a beaucoup d'artistes hein, qui faisaient aussi, qui fait toujours aujourd'hui le son du piano. C'était un piano quand même très orchestral, très clair, très brillant, avec une capacité, une puissance très, très importante, et qui aussi pouvait jouer d'une délicatesse et d'une rondeur incroyable, notamment lorsqu'on utilise la pédale douce. Donc, je pense que c'est un instrument qui a vraiment marqué l'histoire de Steinway, qu'on a aujourd'hui racheté. Donc, on peut encore jouer aux États-Unis, à New York, on peut jouer sur le piano de Vladimir Horowitz. Il y en a beaucoup d'autres, mais qui me viennent à l'esprit tout de suite aussi, les deux Steinway qui sont présents à la Maison-Blanche, et notamment le numéro 100 000, qui a été offert à la Maison-Blanche et dont les pieds sont des aigles, pour rappeler donc l'emblème américain. Donc voilà, c'est une entreprise qui est quand même très, 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 très forte aux États-Unis, et dans beaucoup de lieux mythiques, on retrouve des pianos Steinway aujourd'hui. Il y a des éditions limitées, notamment le numéro 600 000, qui est le piano Fibonacci, qui est un instrument que je vous invite à aller découvrir sur Internet, qui est un instrument avec un plaquage et une marqueterie absolument fabuleuse, qui représente sur le couvercle la suite de Fibonacci, qui est cette spirale magnifique et qui est réalisée en bois, donc il y a un travail de marqueterie absolument fabuleux.
Waouh, bah, oui, effectivement. Alors là, il y a aussi, vous nous parliez tout à l'heure de partenariats, par exemple, avec la LIC. Il y a ces savoir-faire, voilà, qui, à la fois sur les techniques de facteurs de piano, mais aussi sur des entreprises d'art et d'artisanat de luxe.
Tout à fait. Et donc, le cabinet de design, Kravitz Design, qui est le dernier en date, a aussi dessiné vraiment ce piano. Donc, Lenny Kravitz était extrêmement impliqué. Il s'est rendu plusieurs fois dans nos ateliers à New York pour sélectionner carrément les feuilles de bois qu'il voulait sur chacun de ses pianos.
Parce que lui est particulièrement fan de piano.
Alors oui, on le sait peu, mais en fin de compte, avant de jouer de la guitare, il est pianiste.
D'accord.
Et justement, il explique très bien ça. Il était sur les genoux du pianiste Duke Ellington. Et dans un club de jazz, ses parents connaissaient Duke Ellington. Et donc voilà, la passion, l'envie de découvrir le piano est née à ce moment-là. Et il dit, il raconte ça très bien, j'étais absolument fasciné de voir la vitesse à laquelle ses mains couraient sur le clavier. Et donc, l'idée de cette collaboration l'a tout de suite beaucoup séduit. Et donc, c'est un piano qu'on a réalisé à seulement 10 exemplaires pour le monde, qui s'est vendu très très vite. En France, on a eu le piano en exposition seulement 9 jours. Donc voilà, un piano très très particulier et qui a été très très prisé et qui dispose justement de cette technologie dont on parlera tout à l'heure, Spirio, qui permettent d'enregistrer et de reproduire le toucher des artistes.
Alors justement, on peut peut-être en parler même maintenant, peut-être en faisant un petit point aussi sur ce showroom, la présence de Spirio ici en France depuis 5 ans, et puis un peu connaître quel est votre marché finalement ici, quel public vous avez capté depuis 5 ans.
Alors c'est un public tout de même assez divers, même si toujours mélomane, puisqu'une partie de notre activité est liée donc au monde professionnel, donc l'activité de concert, que ce soit pour des loueurs, donc qui sont des services concerts agréés Steinway & Sons, ou des salles de concert, qui achètent directement leurs instruments, comme c'est le cas de la Philharmonie de Paris, par exemple, et donc qui ont des instruments à demeure. Aussi pour des studios d'enregistrement, qui s'équipent. Et par ailleurs, dans le milieu privé, donc des particuliers, passionnés de nos instruments, mélomanes, qui très souvent ont fait des études de musique un petit peu plus jeunes, le conservatoire, qui ensuite se sont dirigés vers des métiers un petit peu différents et qui reviennent à cet amour premier de la musique et du piano et qui achètent donc pour leurs intérieurs des instruments.
Donc l'histoire effectivement continue, se perpétue depuis le milieu du 19e siècle, avec toujours cette ambition de l'innovation. Donc là effectivement, on peut voir d'ailleurs dans votre showroom à Paris des Steinway qui jouent tout seuls. Alors vous pouvez nous raconter un peu cette technologie complètement dingue?
Exactement. Alors ça existe d'ailleurs depuis très longtemps, le piano automatique, ça fait plus d'un siècle. On voit ça parfois dans les films de western avec les rouleaux, les bandes à trous qui permettent de rejouer un morceau. La grande, grande différence avec cette technologie Spirio, c'est vraiment le niveau de définition qu'on peut atteindre et qui permet aujourd'hui de rejouer à l'identique une interprétation donnée. Donc l'idée, c'est de pouvoir, à la maison, à un événement, comme on l'a fait hier sur la Tour Eiffel, ou même dans une salle de concert, pourquoi pas un jour, de reproduire un toucher d'un artiste avec un niveau de précision jamais égalé. À titre indicatif, ce qui se fait aujourd'hui sur le marché, c'est le signal MIDI. Donc il y a 127 niveaux de dynamique sur chaque touche, entre le jeu le plus pianissimo possible et le jeu le plus fortissimo possible. On pourrait parler de 127 pixels en niveau de définition. La technologie Spirio, elle, en compte 1020. Donc c'est au millième près, vraiment, le toucher de l'artiste, l'attaque qu'il met dans son jeu, le poids qu'il met sur le clavier. Et on va encore plus loin que ça, parce que même le jeu de pédale est capté avec un niveau époustouflant, puisqu'il y a 256 positions pour chaque pédale. Conservatoire, en général, on en apprend 4. Et déjà, c'est assez compliqué à gérer. Donc ça permet vraiment de reproduire une interprétation donnée. Et c'est ça que nous trouvions extrêmement intéressant. Et donc, comment ça se passe concrètement? Les artistes se rendent dans nos ateliers de New York ou de Hambourg. Il y a un piano Spirio enregistreur avec donc des capteurs laser. Il joue le morceau, on capte tous ses mouvements et ensuite un système de pistons vient reproduire cette interprétation sur le même piano ou sur tous les autres pianos d'ailleurs équipés de la technologie Spirio. Alors très simplement en fait, lorsqu'un pianiste joue, il abaisse les touches, donc c'est un grand levier la touche, et la technologie Spirio fonctionne un petit peu à l'inverse de ça, c'est-à-dire qu'il y a des pistons sous les touches dans la partie cachée du piano, qui viennent les activer à l'envers. Et c'est pour ça qu'on voit les touches du coup s'abaisser. Et on fait s'abaisser les touches, donc exactement avec la même accélération, avec le même poids que ce qu'a réalisé le pianiste.
Alors ça, c'est effectivement pour les pianistes vivants, dont on peut du coup conserver l'interprétation, le toucher, l'émotion, enfin tout, voilà, grâce à Spirio. Mais pour ceux qui sont morts, est-ce qu'on peut écouter Bill Evans avec la technologie Spirio?
Alors tout à fait, et c'était aussi l'idée de créer cette technologie, donc de faire revivre tout le patrimoine aussi des artistes Steinway qui nous ont quittés. Bill Evans en fait partie, donc il y a des morceaux des années 60 qui ont été retranscrits, c'est une autre technologie que je vais vous expliquer. Il y a des enregistrements historiques de Thelonious Monk, de Vladimir Horowitz dans le monde du classique, et beaucoup d'autres artistes donc qui ont joué sur nos pianos de manière historique. Rachmaninoff lui-même, donc les compositeurs aussi, ont des morceaux sur le Spirio, donc ça a une visée aussi historique, patrimoniale et pédagogique extrêmement forte, puisqu'on peut réécouter les grands maîtres du passé sur un piano en acoustique. Donc, je l'ai pas signalé, mais il n'y a pas besoin d'enceinte, on a vraiment du coup le son acoustique du piano. Et donc l'idée, c'est d'être dans la reproduction à son paroxysme, même avec la meilleure chanifie du monde, on reste dans la reproduction du son. Là, on entend vraiment un son en acoustique, donc c'est comme si le pianiste jouait à la maison.
Et alors, effectivement, ça vous permet aussi à vous d'accumuler, en fait, une base d'archives extraordinaire aussi. C'est le but, j'imagine, aussi, au-delà du caractère exceptionnel, effectivement, musical de Spirio, il y a cet aspect aussi patrimonial.
Tout à fait. Vraiment, l'idée, c'est de rendre hommage aussi à tous ces grands artistes qui ont aussi fait Steinway. On parlait de Duke Ellington, il est aussi sur la technologie Spirio. Gershwin lui-même, on a un enregistrement des années 1910, c'est le plus vieil enregistrement qu'on ait, où on l'entend jouer ses propres compositions, aujourd'hui en acoustique. Donc c'est vraiment un hommage qu'on rend aussi à ces artistes-là. C'est aussi la possibilité de les réécouter avec une qualité de son acoustique. Souvent, les enregistrements de cette époque craquent un petit peu. C'est ce qui peut aussi faire leur charme. Mais ça a un intérêt vraiment musical aussi pour les pianistes d'aujourd'hui, je crois, de pouvoir écouter ces grands maîtres de cette manière-là. Et notamment dans le monde du jazz, beaucoup d'artistes viennent et nous disent « Mais c'est super aussi pour relever les enchaînements, pour relever les grilles harmoniques. C'est vraiment un outil fabuleux. » Et aussi pour la composition, parce que Spirio, ça permet d'écouter les grands maîtres d'aujourd'hui ou d'hier, mais aussi de s'enregistrer. Ça, c'est la deuxième facette de la technologie qu'on a lancée en 2019 et donc qui permet de s'enregistrer soi-même et d'éditer ses compositions. Donc, pour le monde du jazz, par exemple, dans un enregistrement studio, c'est absolument fabuleux puisque souvent...
Avis à tous les labels de musique.
Avis à tous les labels et à tous les studios et à tous les artistes. Souvent, le retour qu'on m'a fait, c'est que, comme il y a beaucoup d'improvisation dans le jazz, s'il y a un passage où il y a quelques fausses notes ou quelques petites choses qui ne fonctionnent pas, c'est très dur, voire impossible de réaliser un patch, puisque c'était de la musique improvisée. Contrairement à la musique classique, où on peut rejouer le passage et réaliser un patch. Là, l'idée, c'est d'enregistrer la prise de son avec les microphones dans le studio de manière tout à fait normale, mais aussi de capter le jeu de l'artiste. Et s'il y a un passage qui est fabuleux, qu'on veut à tout prix garder, où il y avait quelques petites erreurs, on peut les corriger, garder les micros au même endroit, faire rejouer le piano, et donc à ce moment-là bénéficier du « patch parfait », entre guillemets, puisque c'est exactement les mêmes dynamiques et les mêmes notes avec ces quelques corrections. Donc dans le monde du jazz, on a quelques artistes qui commencent à nous contacter dans ce sens, aussi des studios d'enregistrement. Et des compositeurs qui peuvent tout simplement s'enregistrer. Ludovico Einaudi, par exemple, a un modèle D, Spirioware, où il peut s'enregistrer, éditer et envoyer à des collègues compositeurs, pourquoi pas, qui disposeraient d'un piano Spirio, ces fichiers-là qui pourront du coup les écouter en acoustique à l'autre bout de la planète.
Alors, merci beaucoup Enzo Ungauer pour nous avoir raconté vraiment l'histoire avec beaucoup d'anecdotes incroyables de la marque Steinway qui est plus que centenaire, qui est vraiment une marque historique dans le monde de la musique. Et plus particulièrement, on en a un peu parlé aussi, évidemment, du jazz. Alors justement, je propose qu'on se quitte en musique. Hein, c'est quand même logique. Quel serait le morceau qu'on peut écouter pour se quitter, Enzo ? Un morceau mythique, sur un piano mythique, je ne sais pas, une petite idée ?
Alors, c'est l'embarras du choix. Je peux vous proposer Bill Evans, Duke Ellington, Thelonious Monk, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, je vous laisse aux commandes et décider de la pièce qu'on écoutera. Et j'ai une dernière anecdote, voire même une information en avant-première aussi, qui concerne le monde du jazz. C'est qu'on reçoit Laurent de Wilde en tant qu'artiste Steinway. Voilà, c'est très très récent, donc s'il nous écoute, voilà, je me permets de le saluer. Il y avait le pianiste de jazz Yaron Herman qui l'est devenu depuis notre installation en France, aussi Jean-Pierre Como, Jean-Michel Bernard et je l'espère beaucoup d'autres.
C'est magnifique, c'est des grands noms du jazz et d'ailleurs on avait reçu Laurent de Wilde il y a quelques temps en interview sur Art District Radio, donc on est très content de savoir qu'il est artiste Steinway aujourd'hui. Merci beaucoup Enzo, merci.
Merci à vous.
Finalement, nous avons choisi le titre de Thelonious Monk, joué sur un piano Steinway, donc évidemment. Et c'est Don't Blame Me. C'était Backstage, une émission à retrouver les mercredis et samedis à 14h sur Art District Radio.